Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Éducation, santé, environnement. Ça fait 10 ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
L'angoisse de la note. Même pour les bons élèves, le moment de la remise des copies corrigées provoque toujours un petit stress. Moyenne, pas moyenne, peloton de tête ou dernier de la classe, j'en ai encore des frissons rien que d'en parler. Imaginez-vous maintenant à la place du ministre de l'Éducation nationale au moment de la publication du rapport PISA.
Yes, great, graduate, I hope, but don't foot you to my girl.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous propose de faire avec moi le tour de PISA.
Prêt à donner le meilleur, prêt à porter haut les couleurs de la France, mobilisons-nous pour PISA 2018. PISA signifie Programme international pour le suivi des acquis des élèves. C'est la plus grande enquête réalisée dans le monde sur les systèmes éducatifs.
Bon, pour PISA 2018, c'est un peu tard, mais pour 2021, il va encore falloir faire un effort. L'enquête PISA est remise tous les 3 ans. Le classement est réalisé par l'OCDE auprès de 600 000 élèves de 15 ans dans 79 pays. L'édition 2018 vient de rendre son verdict. Marie-Christine Corbier s'est plongée dans l'enquête pour les Échos et pour en sortir la substantifique moelle. Alors Marie-Christine, avant de regarder plus en détail les résultats, que mesure exactement le classement PISA ?
Alors, ça mesure ce que l'OCDE appelle les savoir-faire et les savoir-être, c'est-à-dire que ça va au-delà des acquis scolaires. C'est l'idée de savoir comment les élèves utilisent les connaissances qu'ils ont acquises dans la vie quotidienne pour savoir comment ils analysent, comment ils vont raisonner, comment ils vont communiquer. Donc, c'est pas juste les acquis scolaires ou les programmes scolaires. Ça va au-delà.
Ah, ma messe, le Balzac de la mathématique. 17 pages. Il y a de tout, hein, ma messe. Il y a du sang, il y a de l'action, il y a du sexe. De tout, sauf des maths. Voilà pour le tome 1, j'attends le tome 2 avec impatience. Tiens, 2 d'ailleurs, c'est la note que je vous ai mise, ma messe. Qu'est-ce que je fais? Je vous la rends? Non.
Bon, on va essayer d'être plus positif que Franck Dubosc dans le film Cinéman, qui est loin d'avoir eu la moyenne auprès des critiques cinéma. Marie-Christine, globalement, comment est-ce que la France s'en sort dans ce classement?
L'OCDE dit position honorable. La France est entre le 15e et le 20e rang. En gros, on est à la fin du top 20. Et vu comme ça, la France est légèrement supérieure à la moyenne OCDE. On peut se dire, oh bah, après tout, c'est pas si mal. Ce qu'il faut regarder surtout, c'est les écarts. C'est-à-dire que la moyenne et cette position entre guillemets honorable, comme le dit l'OCDE, elle cache des écarts énormes. Puisque les élèves qui ont les meilleurs résultats en France sont ceux qui ont un niveau qui correspond aux pays qui sont vraiment dans les tout premiers rangs de PISA. Et ceux qui ont les moins bons résultats ont un niveau qui correspond aux pays qui sont tout en bas du classement, donc la Turquie. Donc, à première vue, on a un résultat moyen comme ça et honorable, pour reprendre l'expression de l'OCDE. Dans la réalité, il y a des choses beaucoup plus inquiétantes.
On va y revenir justement à ces problèmes d'inégalité, ces problèmes de discipline qu'il peut y avoir. Ce qu'on comprend bien, en tout cas, le point de vue de l'OCDE, c'est que c'est bien, mais peut mieux faire. Ça veut dire que c'est aussi une incitation à faire des progrès?
C'est exactement ça. C'est plus que peut mieux faire. Angel Gurria, le secrétaire général de l'OCDE, parle de situation alarmante quand il parle des inégalités. Il y a aussi le climat d'indiscipline que vous évoquiez à l'instant, qui est un autre point noir pour l'OCDE. Mais les inégalités, c'est vraiment l'OCDE parle de gros points noirs.
En revanche, pour ce qui est de l'équité sociale, rien ne va plus. Carton rouge pour la France. Nous sommes parmi les pays les plus inégalitaires.
Les élèves français des milieux socio-économiques défavorisés sont 5 fois plus nombreux que ceux des milieux favorisés à ne pas atteindre le niveau minimal de lecture. C'est l'un des scores les plus élevés des pays de l'OCDE.
On entend dans ce reportage de France 3 les propos d'Angel Gouria, c'est le secrétaire général de l'OCDE. Il est assis à la gauche de Jean-Michel Blanquer, le ministre français de l'Éducation, qui fait un peu la tête d'un élève, hein, d'ailleurs, qu'on viendrait d'envoyer au coin. Alors Marie-Christine, cette inégalité qui persiste a une conséquence aussi sur les ambitions et les espoirs de certains élèves venant de milieux défavorisés ?
Il y a en tout cas une forte autocensure. C'est-à-dire que même dans les milieux défavorisés, les meilleurs élèves n'envisagent pas forcément de poursuivre dans l'enseignement supérieur, alors qu'ils ont le niveau. Cette autocensure-là, elle est un vrai point d'inquiétude pour l'OCDE.
Et la France n'arrive pas à trouver des solutions justement pour réduire ces inégalités ?
Alors, ce que dit l'OCDE, c'est que la France s'est réveillée un peu tardivement. C'est-à-dire que les clés pour rectifier le tire, si je puis dire. L'OCDE martèle depuis des années que c'est dans la priorité au primaire, voire avant, parce que les inégalités, elles commencent par des inégalités de langage dès la crèche. Et on voit par exemple que l'Estonie, qui est un pays qui est parmi les pays qui ont le plus progressé dans PISA, a par exemple eu des politiques où des enseignants ou des accompagnants insistent sur l'éveil dans les crèches. La France a commencé à penser la priorité aux primaires réellement à partir de 2012. Alors, sous François Hollande, c'était la création des 60 000 postes, l'idée de mettre plus de maîtres que de classes. Cette fois-ci, on a Jean-Michel Blanquer qui a décidé finalement d'utiliser les moyens du quinquennat précédent pour faire autrement, c'est-à-dire mettre le focus sur l'éducation prioritaire et pour dédoubler les classes au CP et au CE1 et mettre en place des méthodes pédagogiques particulières. Or, là, cette année, les élèves qui sont testés sont des élèves qui sont nés en 2002. Donc on voit bien qu'il faut beaucoup de temps avant que ça se traduise dans les faits. Et finalement, ce que dit l'OCDE, c'est que les politiques qu'a mises en place la France depuis 2012, on en verra les effets peut-être à partir de PISA 2027 ou PISA 2030.
Est-ce que dans les problèmes d'inégalité, les questions de discipline, finalement, viennent encore renforcer les difficultés rencontrées par certains lycées ou collèges ?
C'est ce que dit l'OCDE, en tout cas. La France est l'un des 3 pays, avec l'Argentine et le Brésil, pour lequel les élèves ont le plus de sentiments négatifs à l'égard de leurs établissements. Alors, c'est 2 choses. C'est effectivement le problème de discipline qu'avait déjà souligné l'OCDE il y a quelques mois, c'est-à-dire que les élèves français testés dans PISA, mais pas seulement, se plaignent du bruit dans les cours, de l'indiscipline qui fait que les cours aussi, la durée des cours est réduite parce que les cours ne démarrent pas tout de suite. Donc ça, c'est un élément. Alors l'autre élément qui nourrit le sentiment négatif dans PISA, c'est le fait que les élèves français ne se sentent pas soutenus, ou en tout cas ils disent qu'ils se sentent peu soutenus par leurs enseignants. Et là, pour le coup, ça touche surtout les établissements les plus favorisés. Il y a beaucoup de littérature, dit l'OCDE, sur des établissements haut de gamme où il y a un peu de casse. Et on retrouve finalement cet élément-là dans PISA à travers ce sentiment négatif à l'égard des enseignants.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on constate quand même que ce classement qui existe depuis maintenant près de 20 ans commence à avoir un impact là aussi sur les politiques publiques en matière d'éducation.
Exactement. C'est vrai que quand PISA est arrivé, il y a eu plein de réactions négatives disant c'est encore une évaluation internationale qui prend pas en compte les spécificités françaises, etc. Et il y avait eu, dans un premier temps, des vraies critiques à l'égard d'un classement qui montrait que la France, qui se croyait avoir une bonne école, était pas vraiment au niveau. Et les politiques s'en sont emparées et ont compris finalement que la priorité aux primaires était quelque chose d'important, alors que la spécificité de la France pendant des années a été au contraire de donner la priorité notamment au lycée et au second degré.
Pourquoi est-ce que l'Asie domine ce classement d'ailleurs ? Est-ce qu'on a une idée ?
On a une idée. Il y a plusieurs choses. En Asie, l'éducation est vraiment la priorité numéro 1. Il y a eu beaucoup de critiques par rapport à ça, mais on a des parents qui systématiquement donnent des cours après les cours. à la différence de la France où, j'allais dire, il va y avoir par exemple un creusement des inégalités liées aux cours dont certains vont bénéficier et pas d'autres, en Asie, tout le monde a ses cours. Alors, ça génère beaucoup de critiques, hein, parce qu'évidemment, ça provoque une pression sur les enfants.
Faire un burn-out à 7 ans, c'est dur.
Effectivement. Ce que dit l'OCDE, c'est attention à l'Asie bashing en matière d'éducation, et qu'il y a aussi des choses bien que fait l'Asie en donnant, par exemple, et l'OCDE cite la Corée pour dire que les enseignants sont extrêmement valorisés, qu'ils ont des salaires attractifs, que la formation des enseignants est aussi pointue et que tout ça, finalement, ce sont aussi des recettes asiatiques dont les autres pays pourraient s'inspirer.
En résumé, les élèves français sont à peine au-dessus de la moyenne. Ils lisent de moins en moins par plaisir, ont moins confiance en eux et ont plus peur de l'échec que la moyenne des pays de l'OCDE, selon l'enquête PISA. Mais bonne nouvelle, je trouve, 70% d'entre eux déclarent au moins être satisfaits de leur vie. On l'a compris, le système PISA fait aujourd'hui référence dans l'OCDE, 19 ans après sa création. Tous les 3 ans, ses résultats sont disséqués dans les ministères. En 2001, ils avaient créé un choc en Allemagne après une publication qui révélait qu'un élève de 15 ans sur 4 ne savait ni lire ni écrire correctement. Depuis, l'Allemagne a regagné des places dans le classement pour se situer un peu au-dessus de la France. Le classement PISA est donc pris très au sérieux, mais justement, comment est-il fabriqué? À l'heure où le doute de tout et de n'importe quoi se répand sur Internet, peut-on faire confiance à cette enquête de l'OCDE pour classer les bons et les mauvais élèves de l'éducation?
Franchement, elle n'est plus vraiment critiquée par les pays, même si certains l'ont accusée de biais. Alors, on a parlé de maths des fois trop appliquées, pas assez abstraites, notamment en France, de philosophie trop inspirée des idées libérales du Forum économique de Davos.
Laura Bernier est rédactrice en chef aux Échos Week-end.
Mais en fait, elle fait désormais partie du paysage éducatif international et elle recueille en plus un succès croissant puisqu'on voit qu'à chaque classement, le nombre de participants augmente. Pour celui qui vient d'être publié, on en compte 79 et pour le prochain, plus de 80. Je n'ai pas le chiffre encore exact, mais peut-être 84. Donc, à quelques exceptions près, il n'y a jamais eu vraiment de protestation. La seule réellement constatée, c'était en Autriche en 2009, où il y a eu carrément un boycott à la suite d'une polémique entre les enseignants, les syndicats d'enseignants et le ministère de l'Éducation nationale. Mais c'est tout, à part quelquefois des faibles participations.
Comment est née l'idée de ce classement?
En fait, ce classement, ce n'est pas le premier du genre, puisqu'il y a une association qui s'appelle l'IEA, qui en avait déjà fait quelques-uns dans le courant des années 90. Mais l'OCDE, qui donc à l'époque regroupait une trentaine de pays, s'intéressait, et s'est toujours intéressé à l'évaluation des politiques publiques, et donc en particulier, évidemment, à l'éducation. Du coup, elle a recruté le responsable de l'analyse de l'IEA, qui est donc cet Allemand, Andreas Schleicher, qui est devenu le père de PISA. Au début, ça n'a pas été simple, parce qu'ils étaient qu'une poignée, 5 je crois, et des statisticiens pour la plupart. C'était quand même un énorme boulot. Mais en fait, dès le premier classement, PISA s'est imposé comme la référence dans le secteur. Et ça ne l'a pas empêché d'évoluer d'ailleurs depuis, puisque par exemple, en 2024, on aura pour la première fois un test d'anglais, en tout cas pour les pays non anglophones.
On verra comment la France sera classée. Pourquoi s'intéresser aux élèves de 15 ans plutôt qu'à ceux qui entrent au collège pour un premier bilan?
Oui. Alors, d'autres études, justement, s'intéressent en général aux élèves plus jeunes, notamment celle de l'IEA. Mais l'OCDE, elle a voulu évaluer les jeunes quasiment à la fin de la scolarité obligatoire, ce qui est en général de 16 ans dans la plupart des pays de l'OCDE. L'objectif, c'est d'juger en fait les élèves un peu avant leur entrée éventuelle dans le milieu du travail ou en tout cas à la veille de leur entrée dans le monde universitaire.
Alors, si j'ai bien compris, Laura, le classement PISA est aujourd'hui reconnu internationalement. De plus en plus de pays veulent intégrer l'enquête, vous le disiez. Mais alors, comment faire pour que ce classement soit irréprochable?
Irréprochable, on peut toujours lui reprocher des choses, mais enfin, globalement, c'est quand même une énorme machine, puisque imaginez, en 2018, il y a près de 600 000 élèves dans le monde qui ont été testés sur PISA, mais c'est une équipe de 25 personnes seulement qui gère tout l'ensemble des tests. Mais évidemment, c'est pas seulement les 25 personnes qui réalisent ça, c'est des prestataires extérieurs et c'est les pays, puisque c'est les pays qui mènent eux-mêmes les tests. Mais il n'empêche que PISA rassemble ensuite toutes les données, les vérifie, dialogue pas mal avec les États pour lisser éventuellement ou nettoyer les données, comme ils disent. Mais c'est quand même PISA qui, in fine, va restituer les résultats et les commenter et les interpréter, ce qui parfois n'est pas du goût de certains états.
Mais c'est un travail de fourmi, Laura.
Complètement, c'est assez dingue. Mais d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il leur faut au minimum 3 ans pour le faire, en réalité 4. Et même, il y a un projet d'éventuellement même de faire le test plus que tous les 4 ans pour justement lisser un petit peu plus le travail qui est gigantesque.
On fait partie d'un des établissements sélectionnés pour PISA 2018. Le test va durer 3h30. De 9h à 12h30. Les élèves qui passent les tests, ici 32 pour le lycée Kessler, sont des élèves qui ont été tirés au sort.
Alors sur le site Éducation France, on peut suivre un reportage réalisé en mai 2018 dans un lycée de Cergy-Pontoise en région parisienne. Alors justement, Laura, comment sont choisis les lycées participants ?
Alors, c'est le prestataire donc qui est en charge de ce qu'on appelle l'échantillonnage, qui va demander à chaque pays participant de lui envoyer la liste de tous ses établissements. Alors, quand on parle de tous les établissements, c'est privés, professionnels, publics, généraux, qui ont des élèves de 15 ans. Donc, par exemple, en France, ça peut être des collèges et ça peut être des lycées, puisqu'il y a encore des élèves qui ont 15 ans au collège, ce qui n'est pas toujours très simple à mettre en œuvre. Et donc, les pays leur envoient cette liste. Et le prestataire, ou PISA, tire au sort 150 établissements. Et c'est sur ces 150 établissements, ensuite, un nouveau tirage au sort va être réalisé pour en choisir 42. En gros, pour chaque campagne, on va dire, de PISA, 6300 élèves, en général, sont testés dans chaque pays. Le chiffre est le même pour tous les pays.
Les établissements changent à chaque fois ?
Ah oui, évidemment. Oui, oui, puisque c'est un tirage au sort. Hein, donc, bon, en tout cas, dans des grands pays, ils changent à chaque fois. Je vous dirais sans doute que certains pays comme le Luxembourg, qui sont tout petits, sans doute, les mêmes établissements reviennent à chaque campagne.
Comment est-ce que ça coûte et qui finance ?
Alors, en fait, c'est à la charge des États. Il y a un coût international. Il faut évidemment financer PISA, même s'ils ne sont que 25, ils travaillent, les pauvres, il faut les payer. Et puis, les prestataires, évidemment. Et puis, il y a un coût national qui est lié à toute l'organisation du test. C'est quand même un énorme travail à mener, plus le coût des traductions. Global, on va dire que ça coûte 45 000 euros en moyenne pour la partie internationale pour un pays qui n'est non membre de l'OCDE. Et pour les pays de l'OCDE, c'est un pondéré en fonction de leur PIB. En tout cas, pour la France, c'est en gros 600 000 euros au total, répartis à peu près également entre le coût international et national.
Alors, pour qu'on comprenne bien, l'idée, c'est pas de voir comment les ados recrachent les connaissances, hein, pardonnez l'expression, mais comment est-ce que ces connaissances peuvent leur servir dans leur future vie d'adulte ?
Tout à fait. C'est vraiment là un des principes clés de PISA, c'est d'évaluer la capacité des élèves à utiliser leurs connaissances pour régler des problèmes. Alors, ça peut être en maths, en lecture, en sciences. Les tests s'inspirent toujours de la vie réelle. Par exemple, en 2018, il y a eu un item en compréhension de l'écrit qui concernait le lait de vache et le fait qu'un salon de thé allait désormais non plus servir du lait de vache, mais du lait de soja. Et donc, les élèves ont dû lire des textes différents, l'un d'une association, l'autre d'un article de presse, généralement avec des thèses assez opposées. Et ils devaient, à partir de ces textes, répondre à des questions. Et vraiment, l'exercice, ça devait montrer non seulement qu'ils avaient bien compris le texte, évidemment, les textes, mais qu'ils savaient distinguer entre les faits et les opinions et qu'ils étaient même en mesure d'argumenter leur propre position. Donc, c'est vraiment une contribution de PISA à la lutte contre les fake news et c'est un objectif totalement assumé.
Et ça va bien plus loin, effectivement, que de savoir lire et écrire. Et ça, c'est intéressant, effectivement.
Et on n'est pas sur des textes de littérature classique. Vous avez bien compris, évidemment, on a pu, dans le passé, dire que ça pouvait défavoriser certains pays qui étaient très axés, comme la France, sur des acquis plus classiques.
Alors, vous expliquez aussi dans votre article pour les Échos Week-end qu'il y a un gros travail de vérification des traductions ?
Ah ben énorme, vous imaginez, 600 000 élèves, 600 000, 3 fois 600 000 tests, c'est des millions de données à vérifier. Évidemment, il y a toujours des risques d'erreurs, de faux amis dans les traductions. Donc c'est pour ça que dès le départ, ils ont installé un système qu'on appelle de double traduction, en français et en anglais, pour essayer de chasser au maximum toutes les erreurs. Ce qui n'empêche pas que parfois, quand même, il peut s'en glisser. Il y a eu, il y a quelques années, dans un questionnaire sur le bien-être, des réponses qui ont été particulièrement étranges et trop élevées sur une question concernant le fait que est-ce que les élèves avaient été insultés à l'école ? Parce qu'il y a un questionnaire sur le bien-être où on essaie de voir un petit peu comment ça se passe à l'école pour les élèves. Et il y avait un taux de réponse qui était beaucoup trop élevé et ils se sont rendus compte, en fait, que to give name, qui est le mot anglais pour dire insulter, avait été traduit par donner un surnom. Alors évidemment, ça explique qu'il y en avait peut-être un peu plus.
Mon gros bébé ou titoune, c'est sûr, voilà. c'est mignon. Voilà, ce n'est pas une insulte.
Ce n'est pas une insulte.
Si PISA est aussi bien accepté, c'est aussi parce que justement l'organisme discute beaucoup avec les pays concernés.
Ah, bien sûr. Une fois les données rassemblées, il y a toute une période, des mois d'échanges entre chaque pays et l'équipe de PISA, parce que des fois il y a des anomalies sur les résultats ou le pays participant discute et dit non, là je suis pas d'accord, c'est pas possible, etc. Donc c'est beaucoup de discussions et de dialogues pour parvenir en général à un compromis. Un accord. Par contre, alors l'État, le pays n'a absolument pas le mot à dire sur l'interprétation des résultats par PISA et sur les éventuelles recommandations, les fameuses recommandations qu'ils peuvent donner. Même si certains pays comme la France aimeraient bien parfois donner un peu plus son avis sur la question.
Il y a des enjeux politiques importants pour les pays.
Bien sûr, évidemment. Vous savez bien qu'en France, par exemple, les résultats sont assez moyens et que pendant des années, on n'a pas fait grand-chose, mais que maintenant, on essaye vraiment, notamment avec Blanquer, de développer et de s'y de corriger certains problèmes, notamment à l'école, enfin, au début, c'est-à-dire à l'école primaire, pour essayer de limiter et d'accroître le niveau des élèves dans les matières vraiment fondamentales, maths, sciences et surtout lecture. Et que certaines des recommandations de l'OCDE ont d'ailleurs été prises en compte, notamment l'histoire du redoublement de classe. En France, on était les champions du redoublement et on s'est aperçu, de par l'exemple d'autres pays, que ce n'était pas forcément la meilleure solution pour accroître le niveau des élèves, ou alors justement la vertu des tests. Et on a installé les évaluations nationales plus fréquentes pour essayer un petit peu de mieux piloter les résultats scolaires. Donc en effet, maintenant, c'est devenu un outil dans l'évaluation des politiques nationales en matière d'éducation. Oui.
Alors vous avez rencontré le père de PISA, Andreas Schleicher, le directeur de l'éducation et des compétences de l'OCDE. Quel regard est-ce qu'il porte sur les résultats de la France?
Alors, il ne veut pas du tout être judgmental, comme on dit en anglais. Il ne veut pas juger, mais il est quand même relativement critique sur les efforts qui ont été faits ces dernières années. Alors, ce n'est pas tellement sur le niveau général. On est dans le top 20, voilà, bon, moyen, mais pas trop mal. Par contre, là où on pêche vraiment, c'est sur les inégalités. Donc, je pense que c'est là où vraiment... la France doit mettre maintenant le paquet, comme on dit.
Alors, il pose aussi la question du statut des enseignants, et elle est importante. Hein. C'est une des questions cruciales aussi pour l'avenir de l'éducation en France.
Complètement. Hein. Alors, je vous donne un chiffre. En France, selon les chefs d'établissement, non, parce que le questionnaire PISA, les chefs d'établissement aussi sont questionnés, 87% des enseignants des lycées favorisés sont certifiés ou agrégés, c'est-à-dire entre ceux qui ont les diplômes les plus élevés. Cette proportion, elle n'est que de 58% dans les enseignants de lycées défavorisés. Donc, c'est vraiment, ça montre à quel point, bon, dès qu'on peut, les enseignants partent sur des zones plus agréables, peut-être, ou moins compliquées à gérer. Et Andreas Schleicher recommande évidemment davantage de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs en matière de revalorisation du métier d'enseignant. Alors, on a vu, par exemple, que dans plein de pays, c'est pas forcément une question de rémunération. C'est sûr, c'est mieux. Hein. Si on les paye mieux, tant mieux pour eux et tant mieux pour tout le monde, pour le système. Mais les bons profs, ce qu'ils réclament aussi, beaucoup et de plus en plus, c'est du temps pour aider, accompagner les enfants, du temps pour travailler avec les autres profs, éventuellement même des profs d'autres lycées qui sont sur des zones un peu plus faciles, qui peuvent aider ou en s'entraider, du temps pour faire de la recherche. Et c'est vraiment pour lui enfin, un des éléments cruciaux qu'il faudrait qu'on arrive à mettre en place en France dans les années à venir, puisque dans d'autres pays, ça a marché. On a l'exemple de la Pologne qui est maintenant dans le top 10 de PISA, alors qu'ils étaient au départ dans les tréfonds du classement. C'est vraiment, ça prouve que ça peut marcher. Et donc, il n'y a pas forcément, comment dire, une fatalité dans le déterminisme social, ce qui est plutôt une bonne note pour l'avenir.
Merci Laura Berny, rédactrice en chef aux Échos Week-end, et merci aussi à Marie-Christine Corbier, journaliste spécialiste de l'éducation. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. L'émission a été réalisée par Willy Gann avec Michel Varnet, qui sont largement au-dessus de la moyenne. La Story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Et comme pour PISA, nous ne sommes pas contre une bonne note, alors n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.